écouter pour mieux comprendre et analyser avec un certain recul les tristes événements qui se sont déroulés à Paris dans la semaine du 7 janvier était le thème central de la rencontre organisée entre des éducateurs et étudiants de la FERTES, l'association pour la formation, l'expérimentation et la recherche en travail éducatif et social à Arras. Bien que cette rencontre a eu lieu dans les locaux de la FERTES, elle s'inscrit dans une initiative citoyenne contre institutionnelle. Franck Van de Castel, ex-Marcel et son orchestre et qui a déjà mené des ateliers d'écriture avec des étudiants était là pour l'occasion, mais aussi Didier Martin, sociologue, psychosociologue et spécialiste des questions de violence. On parle avec lui de son travail et de son analyse des événements qu'il a évoqués lors de cette discussion.
Je travaille avec des éducateurs de rue dans le champ de la toxicomanie, dans des foyers, avec la protection judiciaire, enfin point de suspension, c'est-à-dire... Moi, j'ai deux angles de recherche, de travail, d'intervention depuis une trentaine d'années qui sont d'un côté la question de l'institution et d'un autre côté la question des violences. Alors, aussi bien les violences tournées contre soi, dont on parle peu, mais pourtant qui font beaucoup plus de dégâts, toxicomanie, passage à actes suicidaires, enfin, etc. Et d'un autre côté, tous les passages à actes violents, dont on parle beaucoup, parce qu'ils sont directement menaçants envers l'autre, ils nourrissent l'effet divers, etc. Mais moi, j'insiste toujours sur l'ensemble des violences qui ravagent, comme je dis souvent, chez les moins de 25 ans aujourd'hui, les deux premières causes de mortalité sont les passages à actes suicidaires et les conduite à risque, notamment sur des engins motorisés.
Ce qui est arrivé évidemment à Charlie Hebdo, mais pas que, hein, puisque c'est pas les seules victimes. Est-ce que vous considérez aussi que les tueurs sont aussi des victimes ?
Alors, j'ai du mal à le dire, parce que la première réaction, surtout pour un journal comme ça, pour des dessinateurs et des journalistes, je dirais, que je connaissais pas directement, mais qui m'accompagnent et qui ont accompagné toute ma formation intellectuelle, mon plaisir de lecteur, etc., depuis tant d'années, j'ai envie d'abord de les voir comme des salopards, de voir ça comme un drame, etc. Mais passer le moment d'émotion, si on se fait pas piéger dans du compassionnel, etc., et dans des discours très réactif et qu'on commence à essayer de penser, j'ai envie de dire oui, bien sûr. C'est-à-dire que, je ne vais pas le dire comme ça, je vais dire, la question c'est comment ces gens-là ont été fabriqués dans nos sociétés et quels sont l'ensemble des facteurs qui ont pu présider à leur trajectoire. Parce que finalement, les considérer comme des monstres, les monstres sont morts, mais qu'est-ce qu'on a résolu ? Puisque à la limite, il y en a combien derrière qui pourront prendre leur place et tout, si on n'essaye pas de comprendre comment ces individus qui ont commis un acte monstrueux, qui sont de toute façon pas réductibles à cet acte d'un jour, comment ces individus qui ont commis ces actes monstrueux, finalement, en sont arrivés là. Et comprendre ça, c'est peut-être se mettre en position de pouvoir retravailler sur de l'anticipation, sur de la vraie prévention, et ne pas se faire piéger dans un discours compassionnel ou sécuritaire. Parce que de toute façon, j'allais dire quelque part, le drame de Charlie Hebdo a montré que même quand on met des policiers en garde rapprochée, même quand on met, etc., un fou, il peut toujours passer tout le monde à la casserole, y compris les gardes, etc. Et la protection policière des gens de Charlie Hebdo n'ont pas empêché la mort de tous ces gens-là. On voit bien que c'est pas du côté, la réponse sécuritaire, ça ne marchera pas.
Et selon vous, alors, quels sont les paramètres pour en arriver là ?
Je dirais les trajectoires. Qu'est-ce qui marque ces trajectoires ? Je ne sais pas ce qui pousse parce que on n'a pas le. On peut. Il y a différents chercheurs qui travaillent là-dessus et qui ont pu mettre en évidence l'ensemble des paramètres. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut comme articulation entre ces paramètres et qu'est-ce qu'il faut comme dosage pour qu'il y ait un passage à l'acte de ce type-là. C'est ça qui est compliqué. Par contre, les paramètres, moi, je m'appuie sur des recherches qui ont été faites justement sur des trajectoires ou même pour prendre des événements récents, quel cal dans les années 95 qui meurt sur le pavillonnais, Mohamed Merah, etc. On retrouve dans les trajectoires de tous ces gens des paramètres quand même constants, c'est-à-dire marginalité sociale, famille en miettes, isolement relationnel, petite délinquance répétitive, séjour en prison, et des gens complètement paumés, désespérés, qui à un moment donné vont accrocher. Alors vont accrocher, c'est des rencontres en prison, hein, tout le monde a déjà signalé ce qui se pouvait se passer là, etc., ou rencontrer dans un quartier ou ailleurs, hein, ou des recruteurs de tel ou tel mouvement. Et après, comme disent certains chercheurs, il faut ajouter un autre facteur, c'est le profil psychosociologique. C'est-à-dire que même s'il y a tous ces paramètres, pour autant, il y en a d'autres qui basculent pas, il y en a d'autres qui basculent dans autre chose, dans le dit dans autre chose. Et puis il y en a quand même une majorité, hein, ce que je répète tout le temps, hein, la majorité des jeunes des quartiers populaires, même s'ils ont une souffrance individuelle, familiale, sociale qui est énorme aujourd'hui dans ces quartiers-là, la majorité, finalement, se comporte pas si mal que ça. Alors c'est quand même une minorité, il faut quand même le signaler. Et parmi cette minorité, on a encore une plus petite minorité. Alors il faut conjuguer tous ces paramètres, et il y a quand même ce profil. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être une fragilité psychologique, etc., va être le paramètre qui va assurer la bascule. Mais là, on n'est pas très sûr de la question. Par contre, ce qui est sûr, que pour prendre ces quatre noms que j'ai cités là en 20 ans, c'est qu'on retrouve à chaque fois le même type de trajectoire. Je me souviens, dans l'affaire Calcal, il y a un sociologue qui avait écrit une trentaine de pages sur l'histoire de Calcal et essayer de comprendre. Si je me rappelle ma lecture de l'époque, on retrouvait quoi ? On retrouve un garçon qui, en 6e ou 5e, avait les compliments du conseil de classe, etc., issu de quartier, d'un quartier populaire quelconque dans la banlieue lyonnaise ou même à Lyon, je ne sais plus exactement, qui est en réussite scolaire et tout. Et puis d'un seul coup, ça vrille. Alors qu'est-ce qui vrille ? Ce qui était contenant, peut-être pas le quartier, mais la famille vrille. Du coup, le jeune, en quelques années, va vriller aussi. Il va se retrouver 3-4 ans plus tard au lycée en échec scolaire massif. Petite délinquance, séjour en prison répétitif. Et au final, quelques années plus tard, il meurt sur le pavé lyonnais après une tentative d'attentat. Alors, j'allais dire, on va certainement trouver des similitudes dans les trois terroristes qui sont morts il y a 3 semaines. La question, c'est de comprendre les trajectoires. Moi, je n'ai pas envie de les plaindre, hein, c'est très clair. Comme l'a dit, je le rappelais tout à l'heure dans le débat ciné, le mercredi en question, j'avais l'impression d'avoir pris un immeuble de 6 étages sur la tête. Donc, j'ai pas envie de les plaindre. Mais si on en reste à l'émotion, ça va être catastrophique derrière. Si on est capable d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, non pas pour plaindre ces gens-là, mais pour éviter qu'il y en ait d'autres qui basculent, peut-être qu'on va avancer. Mais ça, c'est une autre histoire.
Enfin, dernière question. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que Manuel Valls dit qu'il y a un apartheid en France ?
J'ai même pas. J'allais dire, après, c'est pas le problème des mots. Ça fait 20 ans que les sociologues, je pourrais vous citer X sociologues qui travaillent là-dessus et qui démontrent tous ces processus de discrimination, de ségrégation, etc. Tout ce qui est en train de se créer dans ces quartiers-là et comment, dans certains quartiers, aujourd'hui, celui qui fait bouillir la marmite, c'est le jeune de la famille, alors que son père est au chômage, sa mère est au chômage, qui remplit le frigidaire. Sauf que le problème de Valls, c'est qu'il pratique une politique qui fabrique ça. Donc, je trouve que ce discours-là est un pur discours de récupération. C'est-à-dire que ce qu'a montré, je pense aux travaux de Naomi Klein, et notamment à son travail, la stratégie du choc, c'est la capacité qu'a le système néolibéral et ceux qu'en sont les représentants, c'est la capacité qu'ils ont de récupérer même toutes les catastrophes. Et là, je trouve que ce discours-là est un pur discours de récupération, mais qui n'a pour moi aucun intérêt sur la forme. Par contre, sur le fond, mais ça on n'a pas entendu, il y a des gens beaucoup plus sérieux de lui qui depuis 20 ou 30 ans disent, et je dirais travaux à l'appui, et essayent de montrer à quel point les quartiers populaires sont en train de dériver aujourd'hui.
Franck Van de Castel est bien connu pour avoir été l'incontournable trublion des Marcel et son orchestre. Il officie aujourd'hui au sein du groupe Lénine Renault avec son acolyte Cyril ex-VRP, mais il est aussi un fervent militant et défenseur de l'éducation populaire. Il nous livre entre autres son ressenti sur cette discussion.
Alors Franck, qu'est-ce que tu as pensé de cette discussion ce débat, même si on n'a pas vraiment eu, j'ai pas trop entendu hein, malheureusement les étudiants en EduxP s'exprimer.
Ouais, je suis d'accord. On a été long à ventiler, à distribuer un peu la parole, quoi, tu vois, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu veux, on est fort en gueule et on s'enflamme vite. En même temps, tu vois, c'était des réactions et puis c'était intéressant de recontextualiser un peu cette histoire. Justement, Charlie, à quoi ça sert? C'est pas taillé pour plaire à tout le monde, et rappeler un peu que si tu veux pas l'acheter, il suffit juste que tu l'achètes pas, c'est 3 €, donc si tu veux pas voir les dessins, tu les vois pas, quoi. Et puis après, effectivement, je pense aussi que c'était très très dense, quoi, donc peut-être au niveau de la salle, il y a eu l'idée de vouloir un peu profiter, et puis à un moment tu dis oui, mais on prend la parole sur quoi? Puis je pense qu'on est tous un petit peu éteints, tu vois, comme je disais, il y a besoin de retrouver aussi des initiatives un peu simples, etc., qui vont recréer du lien. Mais je pense qu'on a besoin. Tu vois, les 4 millions dans la rue, c'est pas des fans de Charlie, c'est pas ça, mais c'est juste aussi des besoins, des gens qui se disent pitié pour le tendre, quoi. Il nous faut de la tendresse, quoi. Bien sûr, il nous faut, tu vois, du lien, il nous faut. Il y a 1000 fois plus de choses qui nous rassemblent, 1000 fois plus de difficultés qui néanmoins nous fédèrent qu'autre chose, quoi. Et qu'à un moment, merde, quoi, on va pas faire le peuple contre le peuple, on va pas faire les gens qui souffrent contre les gens qui souffrent, quoi, tu vois. À un moment, on connaît aussi les responsables de tous ces dégâts-là, quoi. Et donc, c'est à eux qu'on doit pas foutre la paix, quoi. Et on sait pas, tu vois, on doit pas se faire du mal entre nous, c'est nul.
Alors toi, t'as surtout insisté hein, sur les mouvements d'éducation populaire, et en même temps, j'ai retenu une phrase, t'as parlé de romantisme révolutionnaire.
Ouais, moi, je disais que, bien sûr, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, et qu'effectivement, ma colère, il a fallu que je la canalise quelque part. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je vais trouver les ligues trotskistes, j'y ai appris plein de choses, les mecs, ils avaient une vraie connaissance de l'histoire, une vraie maîtrise de la dialectique, ils m'ont appris, à lire, etc. Alors, ils étaient chiants à plein de reprises, c'est pas des mecs qui ont de l'humour, hein, tu vois, et donc, heureusement qu'il y avait à côté des cabanas, à côté, il y avait Charlie Hebdo, etc., où je me fondais la poire, mais néanmoins, ils m'ont appris à structurer ma pensée, quoi, ces gens. Alors, à savoir lire l'histoire, m'y intéresser, c'est quoi cette révolution trahie, 1921, qu'est-ce que c'était, c'est quoi ce bel espoir, qu'est-ce que c'était tout ça, et puis en plus l'histoire des immigrations, quand t'es curieux, t'avais juste besoin de te questionner, te nourrir, et qu'à un moment d'apporter des réponses qui soient pas les réponses de la pensée paresseuse ou de la pensée dominante qui se dit de toute façon c'est toujours les vainqueurs qui font l'histoire, et moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir aussi comme dit Michel Ragon, la mémoire des vaincus un peu, quoi, parce que qu'est-ce qui fait qu'ils ont perdu? Ils ont pris sur la gueule cher, quoi, tu vois.
Et dernière petite question, un mot sur l'enseignement et l'éducation nationale.
Je rencontre plein de profs fantastiques, tu vois, plein de profs qui essaient de faire des choses absolument épatantes. Je crois juste que, tu vois, j'ai découvert cette semaine, par exemple, qu'on faisait plus de sciences physiques et de sciences nat en 6e. On démarrait en 5e et on faisait plus d'expérience. Tu vois, on projetait des films. Et carrément, tu dis, quoi? On fait plus d'expérience? Mais c'est capital, quoi, tu vois, de pouvoir voir les réactions, comment ça marche, etc. C'est d'une pédagogie rare, l'expérience. Tu dis, si l'école enseigne plus l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plein de profs qui disent, putain, merde, ils nous suppriment tous nos moyens. Parce qu'à un moment, on considère que, ça rapporte pas une école. Si, ça rapporte des savants si on sait les fabriquer.
Les étudiants en formation d'éducateurs spécialisés ont été très attentifs lors de cette rencontre, et avant de clore ce sujet, quelques-uns d'entre eux nous donnent leur avis.
Ça, c'était une discussion très enrichissante, et ça nous ouvre un peu les yeux sur un petit peu aussi le monde politique, comment c'est perçu, et le monde médiatique.
Et comment toi tu les as vécus ces événements? Est-ce que tu connaissais Charlie Hebdo?
Moi je connaissais parce qu'en fait ma mère aime bien aussi ce journal, donc moi j'ai eu beaucoup d'émotions à l'annonce de leur mort. Et ma mère c'était pareil, donc on baignait aussi dans ce flot d'émotions à la maison, donc c'était assez pesant.
Moi, ça me parle beaucoup l'histoire du mouvement d'éducation populaire parce que je voudrais vraiment en faire partie, je voudrais que ça bouge, je voudrais qu'on change les choses parce que toute cette société me fait mal, quoi, mais vraiment. Et j'ai souvent été aussi confronté à la difficulté de pouvoir en parler et de pouvoir engager le débat. Et je trouve que cette soirée-là, moi, me fait du bien dans le sens où on a pu commencer au moins à essayer de réfléchir à tout ce qui pourrait amener à cette dérive de société et qu'on ait pu le faire et qu'il y ait eu autant de monde qui soit mobilisé et pas forcément des personnes politisées ou investies, ça m'a fait quelque part du bien quoi, ce soir. Voilà.
Toi, comment tu as vécu ces événements ?
J'ai appris les événements par quelqu'un qui était directement touché, parce que c'est des amis qui ont été assassinés. Donc j'étais touché émotionnellement, j'étais choqué. Et j'ai voulu prendre du recul, donc du coup, je suis resté chez moi pendant une journée sans rien faire. Et j'ai regardé quand même les réseaux sociaux et j'ai plein d'amis autour de moi qui sont de bords différents, justement. Parce qu'on a abordé le complot, on a abordé les islamophobies. Et en fait, j'ai tous les bords, des gens un peu racistes. Je connais des gens qui sont racistes, je connais des gens qui sont plutôt dans l'autre côté, théorie du complot. Et en fait, j'ai tout pris dans le visage et je me suis dit, il faut que je réfléchisse, quoi. Il faut que je trouve le moyen de sortir de cette émotion et... j'ai essayé de prendre le temps d'écouter et de pas me créer une opinion personnelle, mais vraiment essayer de prendre l'ensemble des paroles et essayer après d'y trouver un sens. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, quoi.
Moi, la soirée, je suis venue parce que comme mon frère, il fait partie de l'école, il m'en avait parlé. Et puis ça m'intéressait beaucoup d'avoir le ressenti de personnes qui sont capables de pouvoir discuter de ça et d'y réfléchir concrètement. Et de moi, en fait, ça me permet plus de pouvoir m'ouvrir et de comprendre ce qui se passe autour de moi. Même si c'est vrai que... Parce qu'on ignore trop ce qui se passe. Et du coup, moi, j'aime bien pouvoir avoir, par exemple, ces discussions avec mon frère et d'essayer de vraiment avoir conscience de ce qui se passe. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue là. Et ça, c'est bien, même si des fois, ça allait un peu plus loin que ce qui était prévu. Mais c'est bien, au moins, on apporte plusieurs sujets. Et puis, tout le monde est ouvert à la discussion. Et ça, c'est cool, quoi.
Et du coup, toi, comment tu les as vécu, ces événements ? Comment tu les as appris ?
Moi, en fait, c'est trop bizarre parce que le mercredi, quand ça s'est passé, le midi, ma sœur, elle me dit « Oh, il s'est passé ça à Paris ». Et bizarrement, ça m'a rien fait parce que je ne me suis pas rendu compte, en fait, de l'ampleur que c'était parce qu'elle m'a dit les choses qu'à moitié, comme elle l'avait lu qu'à moitié sur l'article. Et en fait, c'est le soir, du coup, quand on en a reparlé entre nous, que là, je me suis rendu compte, quand j'ai vu qu'à la télé, ils en faisaient tout un truc, machin et tout, je me suis dit « Oula, il faut que je me rende compte de ce qui se passe ». Et du coup, ça a été un chamboulement parce que ce genre de choses, j'ai vraiment du mal à les comprendre et à les gérer. Et du coup, ça a été vraiment un bouleversement, une incompréhension, en fait, vraiment. Ça a été ça.
C'était un sujet autour d'une discussion faisant référence aux attentats terroristes qui se sont déroulés dans les locaux de Charlie Hebdo.